Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci d'être à l'écoute de Radio Foot International. Très heureuse de vous retrouver. Et 1, et 2, et 3, et un triplé de champions pour l'histoire. Le Real Madrid trône donc sur le football européen. Il vient de rapporter la coupe aux grandes oreilles à ses supporters pour la 3e fois consécutive et la 13e fois de son histoire. Une victoire maîtrisée grâce à l'expérience ou à la chance. Nous allons revenir sur cette finale de Ligue des Champions Real-Liverpool. Ce Real vainqueur donc de Liverpool, 3 buts dont un d'anthologie inscrit par Gareth Bale et un but red grâce à Sadio Mané qui avait redonné l'espoir aux siens. Liverpool affaibli par la précoce sortie de Mohamed Salah et dont l'épaule inquiète toute l'Égypte aujourd'hui à 2 semaines de la Coupe du Monde. Sergio Ramos est-il coupable de la sortie du Pharaon? Les réseaux sociaux se déchaînent contre le capitaine des Madrilènes, à tort ou à raison. Nous essaierons d'y répondre à cette question. Et puis à celle-là aussi, mais où jouera Cristiano Ronaldo la saison prochaine? Le quintuple Ballon d'Or, muet durant la finale, qui a lâché une petite bombe verbale à l'adresse sans doute du carnet de chèques de son président Florentino Pérez. Quant à Zinedine Zidane, déjà admis au panthéon des grands entraîneurs d'Europe, que peut-il faire de plus à l'avenir? Enfin, Jürgen Klopp, qui a perdu sa 3e finale européenne. Un chat noir pour ses équipes, le charismatique allemand, l'est-il vraiment? Eh bien, nous en parlerons aussi avant de rendre hommage à une légende du football français, l'ancien buteur Roger Piantoni, qui brilla à la Coupe du Monde de 1958 aux côtés de Coppa et Fontaine. Il est décédé à Nancy à l'âge de 86 ans. Et l'un de nos invités du jour l'a connu, Roger Piantoni. Carlos Bianchi, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous avez connu ce grand joueur français, puisque vous étiez vous aussi grand buteur au Stade de Reims. On va en parler de Roger Piantoni et on va parler surtout de la finale. Dominique Sévrac, bonjour.
Bonjour à tous.
Notre confrère du Parisien est accompagné de celui de l'équipe, Hervé Penaud. Bonjour Hervé.
Bonjour à tous. Alors je dois vous dire quand même déjà un grand bonjour à tous mes amis sénégalais, tous les amis africains.
Et c'est nos amis évidemment, aussi les sénégalais.
Et nos amis sénégalais, parce que j'en reviens, j'étais de la base et je peux ce matin encore. Et je peux vous dire qu'ils écoutent l'émission avec un grand intérêt. Et je fais un grand bonjour à Abdoulaye Li, qui lui a été mon guide sur l'île de Gorée. Magnifique
très beau
visite,
lieu.
Absolument incroyable. Et il faut absolument que tous les auditeurs, s'ils ont l'occasion un jour d'aller là-bas, c'est un devoir de mémoire, j'allais dire magnifique. Et donc, ils nous écoutent tous les jours là-bas. Je peux vous dire, Radio Foot, c'est une sacrée émission. Ça marche très fort.
Ben alors, merci à tous les Sénégalais qui nous suivent et aussi à tous les auditeurs qui nous suivent en Afrique et ailleurs dans le
Bien
monde.
Sûr.
Radio Foot, c'est parti.
Dos y tres. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si fuimos campeón de Europa una y otra vez.
Gracias por estar aquí esta tarde. Gracias a vosotros, todos los madridistas que siempre nos apoyaron. Es un momento de felicidad y estamos muy contentos. Así que gracias. ¡Y a la Madrid!
Le retour des héros à Madrid, 10 jours après la fête des Colchoneros autour de la fontaine de Neptune, une autre foule de supporters à samedi soir commémorer la prouesse historique des merengues autour de l'autre fontaine de Madrid, celle des Cibeles. Donc des champions de la Ligue Europa et maintenant des champions de la Ligue des Champions. La fête s'est poursuivie hier donc dans les rues de la capitale, à juste titre car le Real Madrid a accompli un véritable exploit en remportant ses 3 dernières finales successives. Victoire 3-1 sur Liverpool. Une question à vous messieurs, qu'est-ce que cette équipe du Real a de plus que les autres pour dominer ainsi le football européen? Est-ce qu'elle joue le meilleur, est-ce qu'elle pratique le meilleur football européen, Carlos Bianchi?
Quand on parle du Real, on ne peut pas parler d'un style, comme si on parlait de Zidane. Il a un style, Zidane? On ne sait pas. Mais la question du Real Madrid, c'est que quand il doit frapper, Le grand coup, il est toujours là. Et ça ne le suffit pas. Et il n'est pas obligé, disons, à bien jouer. Parce qu'il fait des matchs quelconques. Comme celui qu'on a vu de la finale. C'était un match quelconque. Si le gardien ne se trompait pas, je pense que le match, il allait dans un match quelconque. Au bidon, on pourrait dire. Mais c'est pour ça. Il n'y a pas un style Real Madrid. Mais il y a un réalisme Real Madrid.
Il y a une manière, en tout cas.
Il y a un réalisme. C'est les matchs capitaux, il ne les manque pas. Mm-hmm. C'est la seule façon d'arriver à la fin pour gagner les coupes.
Est-ce que c'est une domination, s'il n'y a pas de style, psychologique sur l'adversaire?
Ah bah, psychologique, ça doit jouer. Il y a un moment, effectivement, qu'on rencontre le Real Madrid, on se dit, mais ils ont quelque chose que nous, on n'a pas. Au moins, ce point-là.
Mais qu'est-ce qu'ils ont alors,
d'une certaine manière, elle est technique, elle est physique, elle a un peu de tout. C'est-à-dire que quand
vous l'avez regardé là-bas, au Sénégal, la finale?
Bien sûr, bah, jamais j'aurais raté cette finale-là. Mais quand vous gagnez trois finales de Ligue des Champions de cette manière-là, à un moment, c'est pas de la chance. C'est qu'il y a une forme de savoir-faire. Alors, il n'y a pas toujours le savoir-plaire, peut-être, effectivement, comme dit Carlos, mais le savoir-faire, il est là. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est une machine et que rien n'arrête, surtout en Ligue des Champions. Et en plus, ce qui est plus étonnant cette année, c'est qu'on avait vu les difficultés qu'avait connues le Real en début de saison, notamment au championnat. Il n'y avait pas eu de recrutement. En janvier, le président Pérez avait dit, on peut peut-être trouver des joueurs, etc. Zidane dit non, je fais toujours confiance à mon groupe. Donc, je pense que ce qui a été, et là, on parlait de psychologie, ce qui a été très fort aussi, c'est la gestion psychologique de Zidane, de ce groupe-là. Voilà, le management, savoir
des
qu'à un moment,
aussi.
Les gars, j'ai tellement confiance en vous que vous allez rebondir parce que vous êtes forts. Même si en championnat, on a laissé un petit peu tomber l'affaire. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors c'est vrai qu'on pourra parler de la finale en elle-même.
Ça, on va en parler.
Et bien sûr,
du scénario.
Mais il n'empêche que là, vraiment, c'est une machine de guerre.
Je pose une question, dites-moi, parce que je me la pose encore aujourd'hui.
Allez-y, Carlos.
Le premier but, il est valable?
Oui.
Pourquoi? Si quand un gardien il va dégager,
il est à 2 mètres, Benzema.
Non, il n'était pas 2 mètres.
Ah, si.
Non. Bah, si tu veux, on prend la mesure.
Carlos.
Mais quand il va dégager un gardien avec le pied, personne ne peut se mettre devant lui. Et quand il va dégager avec la main, pourquoi il peut se mettre devant lui?
Bah parce que j'ai regardé donc des émissions qui analysaient avec la réalité augmentée, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire que on redessine le terrain en 3D et on regarde et Benzema est à 2 mètres. Au moment où Karius lâche le ballon. Donc, il n'y a fait pas faute. Donc, le but est valable.
Dominique, avant qu'on revienne sur les détails...
Il adore la 3D, lui.
Il faut qu'il soit plus loin des 2 mètres.
Il faut, au minimum à 2 mètres, c'est ça?
Non. Il ne faut pas empêcher la relance du gardien. Donc, il ne faut pas être dans ses pattes. Quand on est à 2 mètres, on est sûr de ne pas l'empêcher.
À 2 mètres,
on est sûr de ne pas l'empêcher.
Vous êtes à 2 mètres, là. Dominique, quel est l'élément moteur pour vous de ce Real? Hervé parlait on l'a évoqué, cette espèce de pacte entre Zidane et son vestiaire en disant, eh ben, on va encore le faire et tout. Mais, d'accord, mais il y a des obstacles en général et on a l'impression qu'eux, il n'y a pas.
Oui, parce qu'ils ont eu quand même de bons adversaires.
Mais oui, l'année dernière, on mettait justement
Là, c'est quand même le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich, la Juventus.
Exactement.
Liverpool, qui était un petit peu là, pour moi, j'en avais fait mon favori à partir des quarts de finale, parce que je trouvais que c'était un football exceptionnel. Moi, je dirais même que c'est 4 Ligues des Champions en 5 ans. C'est même pas 3 de suite, Annie. C'est 4 sur 5. Et les points communs, c'est qu'à chaque fois, il y a un très grand entraîneur, Ancelotti pour la décima, Zidane. Et puis après, vous avez parlé du style. Pour moi, c'est un style caméléon. C'est-à-dire qu'ils savent tout faire. C'est-à-dire que si en face d'eux, ils ont une équipe qui aime la possession, ben, ils vont s'adapter. Si une équipe de contre, ils vont s'adapter. Si une équipe en attaque rapide et des attaquants, ils vont s'adapter. Voilà, ils savent s'adapter à tous les styles. Et ça, c'est un savoir, parce que Guardiola, par exemple, que tout le monde décrit comme le meilleur entraîneur du monde, pourquoi pas? Et bon, lui, c'est la possession, il n'en démord pas. D'autres vont jouer comme Atlético Madrid avec Diego Simeone, plutôt un jeu fermé, fondé sur le contre. Eux, ils savent tout faire, ils n'ont pas qu'un seul style. Et je pense que c'est très perturbant, tactiquement, pour jouer le Real Madrid.
Mais parce que Zidane, qui est effectivement, on parlait de grand entraîneur, c'est déjà un grand manager. Un grand manager humain, c'est d'avoir d'homme.
Et de grands joueurs.
Évidemment.
Parce que c'est moins simple.
On parle d'égal à égal avec eux.
Exactement. Mais c'est vrai qu'on parlait un peu de Guardiola et ce type d'entraîneurs qui sont eux des penseurs du jeu. Ce qui n'est pas le cas de Zidane. Zidane, il n'est pas arrivé avec une théorie sur le jeu. C'est pas un théoricien du jeu. C'est quelqu'un qui s'adapte à l'effectif qu'il a, s'adapte aux personnalités qu'il a et il s'adapte plutôt bien. C'est ce qu'on puisse dire.
Oui, parce que, excusez-moi, mais dans l'OTAN, on ne pourra pas dire un style Zidane dans le jeu.
Peut-être que ça viendra.
Un style Zidane. La question, c'est qu'attention, que Real Madrid sont tous des internationaux. Hein. Mm-hmm. Tous, ils jouent dans les sélections de leur pays. Mm-hmm. Alors, ils ne sont pas des bidons non plus. Hein.
Non, mais il n'est pas en train de laisser une trace comme Sacchi ou comme Cruyff, qui ont été des entraîneurs qui ont laissé une trace.
Oui, il y a un style.
Voilà.
Et C'est un petit peu comme... Il est plus près d'Ancelotti.
Oui.
Oui.
Que de Sacchi, que de Guardiola, que...
Mais c'est une trace, justement.
Je pense que c'est un débat pour nous, parce que lui, il doit se dire, moi, ma trace que je laisse, c'est que je gagne des Ligues des Champions.
Mais la trace, elle est laissée.
Écoute,
mais voilà. la trace psychologique, j'allais dire, ou la trace mentale est aussi importante que la trace technique. Parce que, à la rigueur.
Pour moi, c'est plus important.
Voilà.
C'est
plus important. Tu as connu ça. À un moment, il faut savoir gérer Ronaldo.
Comment je fais la différence?
Moi, comment je vois? Je voulais avoir un entraîneur qui aille le groupe derrière lui.
Voilà.
Pas que lui, il faisait là, tactiquement, oui, on va jouer comme lui, il veut. Mais à la fin, il n'y a pas de feeling.
Il n'y a pas d'équipe. Alors, venons-en quand même au fait de cette finale.
Oui, parce qu'il y a des choses
parce
à dire.
Il y a plein de petits faits quand même durant ce match. Et commençons quand même par cette maudite 31e minute pour les Reds, où le meilleur d'entre eux, ou en tout cas l'un des meilleurs de l'équipe, puisque Mohamed Salah est le meilleur joueur de la Premier League cette saison, avec ses 32 buts en 38 matchs. Et il sort. Il est mal retombé sur l'épaule, après un geste donc assez viril du défenseur espagnol Sergio Ramos. Et évidemment, on a vu depuis le désespoir du côté de l'Égypte. On va se rendre d'ici quelques secondes. Et on a vu aussi, évidemment, il y a eu toutes ces attaques contre Sergio Ramos durant le week-end. Est-ce que Sergio Ramos a commis une faute, une erreur? Est-ce que c'était volontaire? Est-ce que c'était vicieux de sa part?
Non, mais c'est volontaire, comme tout défenseur. Et bien, évidemment, il veut prendre l'avantage et puis il veut imposer sa marque physique. À un moment, c'est un combat, hein, un match de football.
En plus, c'est un mec qui met un mec 85, 90. Contre un petit maigre de 60 kilos.
Oui. Donc à un moment, comme il s'impose physiquement, et c'est normal, il veut faire mal, mais pas blesser. Le but de Ramos, c'est pas de blesser.
Marquer sa présence.
Exactement, parce qu'on sait que ça va être un combat, une finale de Ligue des Champions, vous n'êtes pas là pour vous amuser. Carlos, il peut en parler.
Oui.
Je pense qu'il en a pris des défenseurs qui lui ont fait mal. Simplement, à un moment, ça arrive parfois, malheureusement, c'est quand il veut le mettre à terre, et il retombe mal sur l'épaule. Ouais. C'est pas de chance, je vais dire, pour
Mais vous savez que la Fédération Européenne de Judo a dit un peu ironiquement, la clé de bras est interdite en judo, mais elle peut être bonne pour gagner une Ligue des Champions.
Mais c'est-à-dire que moi je suis pas dans la tête de Ramos, donc je ne saurais jamais s'il a voulu le blesser.
On connaît le personnage quand même.
C'est-à-dire qu'il
a l'expérience, comme on dit.
Est-ce que c'est vicieux? Oui. Bon, Ramos, c'est comme Pepe à un moment donné au Real Madrid. Après, Pepe, il s'est calmé, mais ils sont connus pour avoir sorti des joueurs dans le championnat d'Espagne, de cibler, entre guillemets, le meilleur joueur de l'équipe adverse, et de lui faire mal. Voilà.
Il a déjà blessé des joueurs, Ramos?
Dans le championnat d'Espagne, oui. Après, dans des matchs pas forcément très importants. Mais blessé, ça veut dire quoi, blessé?
Je trouve que le geste qu'il fait sur le gardien, quand il met un coup de coude, ça, oui.
Non, on l'a déjà vu donner des coups de coude quand il essaye
parce que un coup de coude des fois sur un duel, mais là on voit bien qu'il part à 2-3 mètres
dans
le top, et première chose il se dit je vais lui faire mal.
Je remarque que c'est sur le meilleur joueur de l'équipe adverse, que pour moi la finale s'est arrêtée à ce moment-là. Après c'est peut-être un peu sévère, mais je trouve qu'elle s'arrête à ce moment-là, que je trouve que Liverpool dominait à ce moment-là. Quand ça arrive, que le début du match est plutôt à l'avantage de Liverpool, que psychologiquement ça doit être terrible quand vous êtes Liverpool de perdre
la
finale de l'Euro, le Portugal perd
Ronaldo, exactement.
Et puis il gagne quand même, donc bon, mais je me dis que quand même c'est toujours compliqué de perdre son meilleur joueur.
Moi je te trouve assez dur sur le sens de la finale. C'est vrai qu'ils ont eu un coup de moins bien terrible Liverpool quand ils ont eu ça, mais après ils sont revenus en deuxième période.
En deuxième mi-temps, oui.
Et c'est pas à un moment, vous avez votre gardien qui fait deux erreurs qu'il a peut-être jamais commises dans sa carrière, même si c'est pas un très grand gardien, ces erreurs-là, mais c'est une erreur catastrophique. Donc, ça paraît incroyable. Et puis vous frappez le poteau.
Carlos, est-ce que ce défenseur d'expérience, au regard toujours un peu méchant, Sergio Ramos, le capitaine du Real, il l'a fait volontairement ou en tout cas il voulait
volontairement, oui, il a pris du bras. Ouais. Il a voulu le mettre par terre, mais pas avec l'intention de le blesser, non, je crois pas.
De lui casser l'épaule ou presque.
Moi, je pense qu'avec les pieds, oui. Ramos, des fois, il va avec les pieds, avec les coudes. Ça, oui, parce que c'est pas un cadeau, Ramos.
C'est pas un cadeau. Mais là, on a vu bien que c'était
à l'époque. Et là, ça a équilibré un petit peu avec Varane. Mais avant, quand il était Pépé et Ramos, c'était Al Capone et les.
Sur la ligne.
Incroyable, tous les deux.
Mais après, il s'était calmé un peu, Pépé. Mais à un moment donné,
à la fin, oui.
Voilà, mais il a eu une période très dure.
Avec l'âge.
Mais c'est pas, ce qu'il faut dire, c'est que c'est quand même pas un tacle assassin. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui arrive, qui met une planche et qui se dit, je vais découper le joueur. C'est pas du tout la même chose.
Là, il a pris du bras, il tombe tous les deux, il aurait bien pu se faire mal, Ramos.
Oui, ah oui, tout à fait.
Parce qu'il tombe tous les deux.
Mais en plus, Ramos, il faut dire une chose, il est légèrement en avance sur celle-là. Donc il a pris l'avantage. Il a pris l'avantage, il a pu passer son corps.
Il y a différence de 15 kilos entre tous les deux.
En tout cas, il a tweeté après, dans la nuit, face au déferlement, Sergio Ramos en disant « Le football... » Alors, il est assez drôle son tweet, il commence par « Le football te montre parfois les bons côtés, d'autres fois les mauvais. Nous sommes avant tout collègues, hein, il s'adresse à Salah. Prompt rétablissement, Salah, le futur t'appartient. » Et justement, eh bien, de ce futur de Mohamed Salah, on va en parler avec Frédéric Quenat, qui est le correspondant du service des sports de RFI en Égypte. Bonjour Frédéric.
Bonjour Annie, bonjour tout le monde.
Alors Frédéric, vous avez suivi la finale avec les Égyptiens dans un fameux café, le café Roma du Caire, et vous racontiez hier soir dans Mondial Sport la réaction des Égyptiens. On va entendre d'abord quelques commentaires que vous aviez recueillis au moment où on ne savait pas encore de quoi souffrait Mohamed Salah.
C'est un mauvais jour pour toute l'Égypte, c'est une sale journée. Tous les Égyptiens sont tristes après la blessure de Mohamed Salah. C'est un joueur capital pour les pharaons.
Vous voyez, il y a des enfants qui pleurent à cause de la blessure de Mohamed Salah. Je suis optimiste. Mohamed Salah nous a habitués à se surpasser. J'ai confiance. Il reviendra pour nous faire vibrer au Mondial.
Alors Frédéric, aujourd'hui le verdict est tombé des médecins. Une entorse des ligaments de l'épaule. C'est 3 semaines d'arrêt et évidemment j'imagine que toute l'Égypte se demande est-ce qu'il va être sur pied pour le Mondial.
Bah, les gens sont confiants parce que ça c'est des infos qui sortent d'Europe, mais en Égypte la fédération a communiqué son optimisme, donc les gens sont confiants et ils espèrent que Mohamed Salah sera là pour disputer le premier match face à l'Uruguay.
Oui, de toute façon, Mohamed Salah, lui aussi, a communiqué en disant « c'était une soirée très difficile, mais je suis un battant, je suis confiant ». Cependant, ça a quand même pris une tournure d'affaire d'État en Égypte. On a eu des réactions du ministre des Sports avant même que Salah ne s'exprime, ou le médecin. On a eu aussi le président El-Sissi.
Ouais. Ça montre à quel point, Mohamed Salah cristallise tous les espoirs de l'Égypte, hein, de l'Égypte à ce mondial. L'Égypte n'a pas participé depuis 28 ans et Mohamed Salah, c'est vraiment un joueur qui s'est imposé en peu de temps. Je veux dire, il est arrivé à ce niveau-là, au niveau d'être parmi les prétendants pour le prochain Ballon d'Or, c'est vous dire. Donc en Égypte, c'est vraiment un personnage qui fait l'unanimité. Dans le passé, personne n'avait fait l'unanimité comme lui, même Mohamed Aboutrika, pour ses opinions politiques. Mais Mohamed Salah, c'est vraiment quelqu'un d'adulé ici en Égypte. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de... qui œuvre beaucoup dans son village et aussi en Égypte, qui fait des campagnes, des spots publicitaires contre la drogue, par exemple, qui construit des écoles. Il fait beaucoup de choses en Égypte et il est très respecté pour ça. Et donc, du coup, quand Sergio Ramos l'a blessé, c'est comme si on blessait toute l'Égypte, en fait.
Est-ce que il y a les Égyptiens, il y a eu une pétition en ligne qui a été demandée avec, je crois, actuellement 250 000 personnes qui sont pour une punition de la FIFA envers Sergio Ramos. Est-ce qu'il n'y a pas une exagération de ce café?
C'est l'aspect un peu pénible du football aujourd'hui, entre les réseaux sociaux et la non acceptation du verdict des matchs. Voilà, on peut pas remettre en cause le match ni Sergio Ramos. Il n'est pas un assassin ou il a blessé Mohamed Salah. Mohamed Salah est adoré en Égypte, il est adoré partout en Europe. Parce que entre Cristiano Ronaldo qui la joue perso, Neymar dont on ne sait plus trop s'il aime les clubs où il est, entre Messi qui dit jamais rien, il a donné une image de lui et du football fantastique, un petit peu détaché et en même temps très concerné. Il a un langage corporel qui fait qu'on ne peut que l'aimer, ce garçon. Je trouve qu'il aborde le football, on a l'impression, sans pression, de manière complètement joyeuse. chose. Il revient à l'essence même du football et ça donne une super image. Donc il n'y a pas que l'Égypte qui aime Salah, il y a toute l'Europe. Mais après, le reste, c'est des débordements qui n'ont pas lieu d'être.
Carlos, vous l'appréciez, vous aussi, ce joueur, Mohamed Salah ?
Ouais, surtout cette saison. Mais déjà, à la Roma, il avait montré quelque chose. C'est pour ça qu'il va le chercher à Liverpool. Mais en plus, il s'est trouvé dans un contexte extraordinaire pour lui, pour jouer au contre-attaque. Il est très rapide, il est très vif.
Il a été mis en valeur.
Il a extraordinaire. Alors, en plus, comme lui, il était très près. Avec Messi, il se ressemble beaucoup dans le sens. Pas qu'ils sont gauchers, pas qu'ils jouent du côté droit plus que du côté gauche, mais en plus, dès qu'il prend des coups, il dit, c'est jamais rien. Il s'élève, il va. Il s'élève, il va. Et lui, ce qu'il aime, c'est jouer au football.
Ouais, et là, c'est vrai que ce qui est impressionnant, je trouve, c'est cette faculté devant le but à garder son self-control, son sang-froid. C'est un calme. Carlos connaît ça. Être buteur, c'est se retrouver finalement devant la surface, là où il y a le plus de monde, comme si vous étiez devant votre but, tranquille, avec un joueur à 15 mètres. Parce que là, c'est facile de faire une passe, c'est facile de frapper. Mais quand vous êtes juste devant le but, qu'il faut avoir le geste juste, il ne s'énerve jamais. C'est assez incroyable parce qu'il n'était pas comme ça, hein, là, il y a un an ou deux ans. C'est vraiment un joueur qui est en pleine progression. Ouais. Donc,
Fait progresser aussi. Absolument. Parce qu'on se souvient de ses passage un peu malheureux par Chelsea où Mourinho s'occupe
il était jeune,
de lui.
Ouais, c'était un jeune joueur, il venait de Bâle. Oui. Alors ils avaient tenté avec lui. C'est vrai, mais il était très jeune. Il n'a fait que progresser parce que oui. Souvent on regarde le joueur aujourd'hui, on se dit ah, mais finalement oui. Il y a 4 ans, pourquoi on l'a pas fait jouer? Ben, il y a 4 ans, c'est pas le même.
Non,
hein, Messi quand il avait 17 ans n'était pas le Messi d'aujourd'hui. Comme le Messi d'il y a 2-3 ans.
Son prix n'est plus le même. Il a été transféré pour 42 millions d'euros de la Roma à Liverpool. On imagine que s'il devait partir cet été, on serait plus proche des 200, 300 millions d'euros ouais. que des 42.
Un peu quoi. Le prix de Dominique Cévrac, c'est des choses pas mal.
C'est vrai.
Frédéric,
attention que peut-être qu'il aurait amené à la Roma à être champion d'Europe, parce qu'il a...
Oui, on ne sait jamais. Exactement. Hein. Frédéric Nkena, il y a une chose aussi. Est-ce que cette Égypte peut envisager une Coupe du Monde sans Mohamed Salah? Ils ont, je le rappelle, le 15 juin rendez-vous avec l'Uruguay. Ils sont dans le groupe du pays qui accueille, la Russie, le 19 juin. Et ensuite, ils joueront contre l'Arabie Saoudite.
Je pense que c'est très difficile, hein, parce que quand vous regardez les deux dernières années, Hector Cooper a forgé justement un système de jeu très défensif qui offre peu de place à des initiatives offensives et qui repose sur les exploits de Mohamed Salah, justement. Et à chaque fois que l'Égypte a joué sans Mohamed Salah, la plupart du temps, l'Égypte s'est inclinée. Et d'ailleurs, depuis que l'Égypte s'est qualifiée pour le mondial, l'Égypte n'a plus gagné aucun match. Donc là, par exemple, vous avez ce match cette semaine face au Koweït, que l'Égypte n'a pas su gagner, et l'Égypte jouait sans Mohamed Salah parce que Mohamed Salah était devait disputer la finale de la Ligue des Champions. Donc je pense que ce coup du sort intervient un peu trop tard pour Hector Cooper qui justement n'a pas préparé assez son équipe
à cette éventualité.
N'a pas préparé de système à cette éventualité. Donc ça va être difficile, je pense, pour l'Égypte. Et c'est ce que tous les Égyptiens se disent de toute façon.
Et oui, c'est pour ça peut-être que ça a pris cette allure là-bas, Hervé.
Ah non, mais il faut se rendre compte de ce que représente, Frédéric l'expliquait, Mohamed Salah en Égypte. Mais c'est un truc, mais c'est invraisemblable. Alors il faut comprendre.
Il a 6 millions d'abonnés pratiquement sur Twitter.
Ah, il faut comprendre ce que c'est l'Égypte déjà. L'Égypte, c'est un pays qui est dingue de foot, comme tous les pays africains. Mais en plus, avec un peuple qui est très nombreux, très nationaliste, très derrière son équipe nationale. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, mais même il serait simplement remis, on vous expliquerait qu'il serait remis que pour le huitième de finale, il serait dans le groupe. De toute façon, il n'y a même aucune chance qu'il ne soit pas.
Et le huitième de finale, vous savez contre qui ça pourrait être?
Ça pourrait être effectivement contre
l'Espagne.
Ouais, l'Espagne.
Contre l'Espagne
ou le Maroc. Ou le Maroc. Donc, je veux dire, c'est le Portugal.
Non, et bien sûr,
Ronaldo.
Mais ça pourrait.
Mais c'est vrai. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est le type de joueur, c'est un peu comme Messi en équipe d'Argentine. Si Messi est blessé avant la Coupe du Monde, de toute façon, il part à la Coupe du Monde. Si on lui dit il a une chance d'être là au huitième de finale, il sera là-bas. Et là, il représente tellement de choses là-bas. Alors, il y a une anecdote que j'ai toujours entendue sur Mohamed Salah. Frédéric, tu vas peut-être nous confirmer si c'est vrai ou pas. On avait expliqué que ses parents avaient été cambriolés et que quand la police avait récupéré les cambrioleurs, il avait dit attendez, non, ne leur faites pas de mal. Et il leur avait donné de l'argent en leur disant si il vous manque des choses, je vais vous donner quelque chose. C'est vrai ça ou pas?
Ouais, ça c'est vrai, c'est vrai. Et parce qu'en fait, en Égypte, on a la possibilité de pardonner devant le juge. Donc c'est-à-dire qu'on abandonne les charges qui pèsent contre celui qui est incriminé. Justement, c'est ce qui s'est passé. Et en plus de ça, Mohamed Salah lui a donné un peu d'argent pour qu'il puisse justement ne plus recommencer à voler.
Eh bien,
je te pardonne, Hervé.
Vous non, c'est bon, non, mais c'est non, mais franchement, ça veut dire à quel point ce personnage
il est humain.
Il est humain. Ouais, il est humain.
Ouais, ouais. Mais il est même au-dessus de de quelque chose là, parce que entraîné par un Argentin, cette équipe d'Égypte, ça vous a pas échappé.
Finaliste de la Champions.
Oui.
J'ai joué contre Cooper. Moi, j'ai joué contre Coupé des années, pendant 3-4 ans. C'était un très bon arrière central.
Et là, le problème de Coupé,
ils étaient finalistes de la dernière CAN, hein, rappelons-le, face à
il est
face
comme Klopp. C'est, Salah, le même entraîneur. C'est-à-dire Cooper, Klopp, ils vont tout le temps en finale, mais ils n'en gagnent pas une. Ou quasiment pas une. Parce que Cooper, c'est
même en Italie, à l'époque de Ronaldo, ils ont perdu le dernier match à la dernière minute à la Lazio. L'Inter, il était premier. Il a perdu contre la Juve. Simeone, il a marqué le but.
Frédéric, il n'est pas encore rentré en Égypte hein, pour l'instant.
Non, il n'est pas encore rentré en Égypte. Donc sa convalescence, il va la faire. Là, pour l'instant, il est aux côtés de. Il est à Liverpool pour l'instant. Et de toute façon, l'équipe d'Égypte a entamé sa tournée. Donc il est au Koweït. Là, en ce moment, ils sont en Italie. Ensuite, ils sont en Belgique. Ils font un petit crochet en Égypte le 9 juin avant d'être basé en Bosnie, à Grozny, pour le mondial.
Qui se stabilise, il a l'épaule un peu fragile.
Ouais. S'ils passent leur temps dans les avions,
voilà, c'est compliqué. Hein.
Mais lui, il va peut-être prendre des soins avant de rejoindre son groupe. Vous nous raconterez ça, j'espère, en tout cas, j'imagine, sur l'antenne du RFI. Merci beaucoup, Frédéric. À très bientôt.
Bien sûr. De rien.
Merci.
Bonne soirée.
À bientôt. Merci. Alors, à noter dans au rayon des blessures, il y a eu aussi la blessure de Carvajal durant le match aussi.
Être en sélection.
Voilà. Et il a beaucoup pleuré. On imaginait qu'il devait se dire dans sa tête blessure qui m'empêche de jouer la Coupe du Monde, mais apparemment il reste dans le groupe de la Roja.
Qu'est-ce qu'il a eu à la fin?
Lui, c'est à la cuisse droite, n'est-ce pas, les ischio-jambiers.
Tout à fait. Hein,
j'ai bien lu. Une lésion au muscle ischio-jambier de la cuisse droite. Mais il en souffrait déjà.
Oui, mais après, c'est toujours pareil. C'est une question de stade. Jusqu'à quel point c'est inflammé.
Oui, ça ne sait jamais.
Bon, pour l'instant, en tout cas.
Ça peut aller de 2 semaines à 1 mois.
Ils ont décidé. Celui qui a essayé un peu de voler la vedette à ses copains qui venaient de gagner superbement cette coupe. Il s'appelle
Cristiano Ronaldo.
Il est comme ça. Je pensais que c'était Karius qui avait volé la vedette.
Il est comme ça, Cristiano Ronaldo.
Karius, on va parler Liverpool juste après. On y viendra à Karius. Mais Cristiano Ronaldo, quand même, c'est le grand buteur. Celui qu'on attend, celui qui a inscrit le plus de buts cette année en Ligue des Champions. Et tout d'un coup, patatras, il fait une déclaration qui, tout le monde après ne parle que de ça et s'inquiète. Écoutons-le.
Pour l'instant, on va profiter du moment et dans les prochains jours, je donnerai une réponse aux supporters qui, eux, ont toujours été de mon côté. C'était bon de jouer au Real Madrid. Je parlerai dans les prochains jours. Ce n'était peut-être pas le bon moment pour parler de choses personnelles, mais lorsqu'on est honnête, on dit parfois certaines choses au mauvais moment. C'est quelque chose qui peut parfois se produire.
Alors ensuite, il a fini hier devant les supporters qui n'ont pas manqué de répondre à ce désir, ce besoin d'amour de Cristiano Ronaldo. Et il leur a répondu dans le stade qui les acclamait à l'année prochaine.
J'ai eu peur. Il a réhabilité le passé simple. Donc il a dit ce fut agréable de jouer au Real Madrid. Donc déjà, je le félicite.
C'est la traduction.
Parce qu'il y a peu de joueurs.
C'est la traduction.
C'est quand même le passé simple. Il y a peu de joueurs qui l'emploient. Donc je dis bravo.
En espagnol, on l'emploie plus que. Ou en portugais, on l'emploie plus qu'en français, en fait.
Après, vous savez, le football, c'est un sport, mais c'est aussi un théâtre, c'est aussi du cinéma. Lui, il a un personnage. Et donc visiblement, il en sort jamais.
Des fois, il est triste, hein, vous souvenez.
Parfois, il est triste, mais c'est souvent quand son compte en banque n'est pas assez garni. Ou qu'il est moins garni que celui de Neymar.
Mais là, il sort d'une finale où ils sont champions d'Europe.
C'est l'un de ses joueurs préférés, avec des guillemets, qui a marqué dans cette finale. C'est-à-dire, c'est Bell, qui n'était pas exactement son ami au sein de la BBC. Hein. Lui, il est très proche de Karim Benzema.
Bell embarque
beaucoup moins de Bell, qui pour lui a eu le tort de se vendre à Benitez à un moment donné pour jouer numéro 10. Donc ça, il l'a pas trop accepté, Cristiano Ronaldo. Quelqu'un lui vole la vedette, et le gardien de Liverpool, et un de ses coéquipiers. Est-ce que c'est pour ça qu'il a voulu se mettre en avant et rester dans son personnage? Je ne sais pas exactement, parce que il va rester au Real Madrid, selon toute vraisemblance. Il va pas quitter le Real. C'est très compliqué pour qu'il quitte le Real. Ouais. C'est plus une opération pour 2019. Ils vont peut-être faire venir Neymar, Salah, je ne sais pas qui. Mais ils vont essayer de le remplacer dans un an, et pas cet été. Donc, c'est très bizarre, cette sortie, encore une fois.
Carlos, vous la comprenez, vous, cette sortie? C'est un buteur,
non, franchement, non, parce qu'après un match d'être champion d'Europe, c'est la moindre des choses qu'on peut penser. Peut-être que lui, il a eu un accrochage avec le président ou quelque chose comme ça, ou il a demandé de l'argent, je ne sais pas, franchement.
Il gagne un peu moins que Messi en ce moment et moins que Neymar, alors il paraît que ça ne lui plaît pas trop.
Mais ce qui est certain...
Plus d'anesthète que
il y a un problème de pouvoir d'achat. Un vrai problème de pouvoir d'achat.
Il cherchait à avoir une... Oui, c'est pour ça qu'il a pris d'ailleurs... il a arrêté avec la voiture essence, il a pris une diesel. Mais, non, mais ce qui est sûr, c'est qu'un joueur comme Ronaldo, vous savez, c'est très simple. C'est ça peut être le meilleur joueur du monde, ça peut être tout ce que vous voulez. Il y a quasiment aucun club qui ne peut l'accueillir. Aucun club peut l'accueillir pratiquement. Il y aurait Manchester City, mais c'est pas le système de jeu de Guardiola, donc ça c'est pas possible. Il va pas aller à Barcelone.
Alors il y aurait peut-être
le seul point, ce serait United.
Mais encore,
parce que Paris Saint-Germain, ils ont Neymar, ouais. ils ont pas dit à Neymar, tu vas venir pour être la vedette.
Mourinho,
c'est pour
lui faire on a déjà
Ronaldo.
Vu que c'était.
Il a plus trop envie de travailler avec Mourinho.
Alors s'il a plus envie de travailler avec Mourinho, c'est-à-dire qu'il peut dire ce qu'il veut. Aujourd'hui, il y a un seul club dans lequel. Ah oui, mais parce qu'il est tellement bon, tellement fort, qu'il va pas aller après dans un petit club.
Il nous a dit qu'il jouerait jusqu'à 40 ans, c'est ça l'année dernière. Donc
là, je pense qu'au Real, il commence à avoir des sueurs froides. Mais est-ce que s'il est pareil, il a 36 ou 37?
Il a 33 ans. En tout cas, une question pour vous, Carlos. L'entraîneur au palmarès important, Zizou, est devenu en 2 ans et demi donc un des plus entraîneurs, même si vous dites qu'il n'a pas de style, mais en tout cas un des entraîneurs.
L'équipe, il n'a pas un style.
Oui.
Je ne parlais pas Zidane.
Non. Zidane en a un.
Un style pragmatique. Carlos, c'est un style pragmatique.
Et Caméléon, voilà, nous avez-vous dit tout à l'heure. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'il peut faire l'année prochaine? Son objectif, c'est d'en gagner une quatrième, ou c'est juste de gagner la Liga, ou c'est quoi? Pour un entraîneur comme ça, quand on a fait ça.
Je pense que, et du moment que Barcelone, il est champion d'Espagne, ils vont vouloir gagner la Coupe de la Ligue. Ça, c'est sûr. Le championnat d'Espagne. Mais tu sais une chose? Que Zidane, s'il est champion du monde au mois de décembre, des clubs, ça va être, avec moi, les seuls qui ont gagné 3 fois la Coupe du Continent et après la Coupe du Monde.
Oui.
Parce que Guardiola.
Le Mondial des Clubs.
Le Mondial des Clubs. Parce que Guardiola, il a gagné 3 coupes. Le Mondial
d'Europe.
Du Monde, non. La troisième, c'était en 15 qu'il avait gagné avec Bayern de Munich. Alors Zidane, s'il gagne à la fin de l'année, avec moi, on sera tous les deux les seuls à avoir été champion du Continent et champion du Monde.
Bravo.
Eh oui, tu vois, ça c'est les vieux qui parlent. On se rappelle des vieux souvenirs.
Tu as encore de l'avance sur lui pour l'instant. Pour l'instant, tu en avances
6 mois.
Alors après, moi je lui donne, mais pas pour qu'il te le dépasse, mais je lui donne la finale 2014 parce qu'il est adjoint d'Ancelotti. Ouais. Pour moi, il a quand même ce titre-là à son palmarès.
Et on se souvient de lui sur le banc, n'est-ce pas, pendant la finale.
Il était fou. Ouais. On le voit courir partout.
Exactement.
À l'époque, il était beaucoup plus expressif qu'aujourd'hui.
Tu sais qu'est-ce qu'on va lui demander à Zidane? Après, à la fin, qu'il change de club pour voir s'il peut démontrer ailleurs.
Ou de prendre la sélection française.
Oui.
C'est ça que, pour moi, il lui reste une chose à accomplir, mais après, peut-être qu'il
lui a d'autres. Il fait 3 ans qu'il est entraîneur.
Peut-être que lui a d'autres envies, Peut-être qu'il a envie d'aller à Liverpool.
Hervé, c'est très différent.
Il peut aller partout, à part à Barcelone, il peut aller partout. Mais moi, j'ai envie de le voir un jour à la tête de l'équipe de France et d'emmener cette équipe-là champion.
Oui, mais on imagine mal, Zidane aller entraîner, Bordeaux.
Ah non, c'est terminé. Les grands clubs d'Angleterre, d'Allemagne.
Pour lui, c'est le Bayern, c'est les deux Manchester.
Exactement.
Maintenant, il est dans ce monde.
Mais la saison prochaine, il sera encore à
Royal.
Lui, il n'a rien dit à la fin du match.
On aime bien les montrer ailleurs aussi. Hein.
Exactement. Et puis là, on a l'impression qu'il était dans son coco, parce que finalement, même, il a eu un petit problème depuis longtemps. C'est une forme de manque de légitimité aux yeux de certains. Alors j'espère que c'est terminé cette affaire-là, parce que quand vous avez gagné 3 Ligues des Champions, c'est terminé.
Mais on cherchait son style.
Il s'est battu tout le temps par rapport à ça. Enfin, lui,
parce que lui, il fait pas son cinéma.
Voilà, il fait pas de cinéma, c'est d'une simplicité.
Il fait pas son cinéma comme certains.
Il est d'une humilité, d'une
simplicité. Lui, il est tranquille.
Bien sûr.
Même l'autre jour, là, il s'est défoulé un petit peu, il a marqué balle, le but. Il a fait comme ça.
Il paraît que son moulinet est très fameux en Espagne, il fait toujours ce geste de la main.
Il fait ça avec Ronaldo.
Il fait même partie des entraîneurs qui s'excitent sur le bord du terrain, qui transmettent de la fébrilité.
Au contraire, il transmet.
Il y en a un comme ça dans le championnat de France qui est parti en Angleterre.
Mais attention, parce qu'il y a des entraîneurs qui s'excitent aussi sur un bord de touche. touche, mais qui ne transmettent pas de la fébrilité.
Non, par
Klopp, par exemple, il s'excite tout le temps, mais il donne.
Ouais, non, ça dépend des styles.
Siméon,
il parlait pas de Klopp.
Vous avez compris. Mais c'est une forme de réponse que je lui donnais.
D'accord. Non, mais je pense.
Là, tu me parles de vrais entraîneurs.
Tous les entraîneurs, tous les auditeurs auront compris aussi, Dominique. En tout cas, les Reds ont perdu, mais leur public devrait aussi honorer les finalistes. C'est pour ça que Salah est encore à Liverpool. Les finalistes malheureux de Kiev, ils sont quand même vice-champions d'Europe après évidemment cette rencontre cauchemardesque sans Mohamed Salah, mais avec la lumière Sadio Mané.
Ah, hein, magnifique,
n'est-ce
Sadio
pas
Mané.
Parce qu'il a marqué un but qui a relancé l'intérêt du match, c'est-à-dire qu'on est à ce moment-là à 1-1, et c'est vrai que on l'a vu partout, Sadio Mané. Il y avait plus Salah, ça lui a laissé plus de place.
Oui, alors il est passé côté droit après. C'est sûr que l'arrivée de Salah, même à Liverpool, à une époque, Mané c'était quand même la star de Liverpool. Et puis ça, c'est pas qu'il était dans l'ombre, parce qu'il a quand même été, il a toujours été très très bon. Mais effectivement, l'autre étant un phénomène incroyable cette année, vous êtes un petit peu derrière. Mais là, on voit tout ce qu'il est capable de faire, mais ce qu'il faisait aussi avec Salah. Et puis comme Salah, Mané c'est quelqu'un qui donne aussi beaucoup. Mm-hmm. Il donne beaucoup sur
comme Firmino.
Il a beaucoup plus de sacrifices que Salah.
Exactement. C'est quelqu'un qui va travailler défensivement. Ouais. Il est plus que ça là, il a plus de coffres peut-être, donc il est capable de marquer, de faire marquer, de travailler pour les autres, donc il a ébloui la finale.
Et de finir, et le geste.
Malheureusement pour lui, il y a cette frappe qui est superbe, et elle revient pas assez, elle part sur le poteau alors qu'elle peut peut-être rentrer intérieure, là le gardien peut pas la voir, il aurait pu mettre un doublé. Ouais. Mais comment il gicle sur son but par exemple, là, il faut aller vite, faut avoir l'instinct de buteur.
Il a marqué 10 buts. Hein.
Ah, 10 buts en Ligue des Champions.
10 buts en Ligue des Champions, hein, quand même, hein, il faut les marquer les 10.
Mais moi, c'est les trois qui m'ont donné le plus d'émotion cette année, hein. Firmino, Salah, Sadio Mané. C'est les trois qui m'ont le plus plu, quoi. C'est,
on parle beaucoup de la BBC. Liverpool plaisait beaucoup, d'ailleurs.
On parle beaucoup de Suarez, Messi.
Non, celui-là, c'est les trois, c'était les meilleurs de la.
Ouais. Les trois Liverpool. Ouais. C'est les trois, c'était les meilleurs.
Parce que Firmino, il a fait un boulot extraordinaire.
Bien sûr.
Il va pas jouer à la sélection du Brésil, il va jouer Jésus. Oui, mais parce que lui, il est plus collectif. Mais sinon.
Non, mais c'est là où on voit, c'est là où on voit qu'ils ont du banc, le ouais. Brésil, quand même. Hein.
Ils arrivent fort. Alors, messieurs, j'ai eu la sensation que vous aviez envie de parler aussi de Karius.
Ce
gardien de but. Ce jeune gardien allemand qu'on a vu en pleurs à la fin de la finale, qui est allé s'excuser auprès des supporters, hein, en disant, je les ai laissés tomber, mes camarades. C'est évidemment des bourdes assez inhabituelles à ce niveau, Dominique, quand on est en finale de la Ligue des Champions. Vous aviez déjà vu ça?
On en parlait avec Hervé avant l'antenne.
Oui, Alejandro nous disait ça aussi, le préfet.
De mémoire de match de Ligue des Champions finale que j'ai vu sur place, ou que j'ai vu devant ma télé, on va dire, depuis les années 90. Donc,
Théorie, t'es plus vieux que moi. Moi, c'est depuis les années 2000.
Je n'ai pas vu ça, quoi. Mais on savait avant le match que c'était un des points faibles de Liverpool.
On pensait que c'était la défense dans l'ensemble, pas le gardien en particulier.
Parce que toute la saison, tout le monde me dit, pour aller en finale des champions, il faut notamment un grand entraîneur, un grand attaquant, un grand gardien. Il faut au moins ces trois conditions-là. Il en faut d'autres. Bon, je savais qu'avec Klopp, ils avaient ça. L'attaque, on a dit, c'était les trois, ils étaient fantastiques. Le gardien, je disais, Loris Karius, c'est qui? C'est Sassordou. Excusez-moi, il est pas dans mes radars.
École allemande.
Mais il est pas dans les radars, c'est pas c'est évidemment pas les cinq meilleurs gardiens du monde avec
De Rea,
Neuer, c'est même pas dans la suite là où on peut mettre des Loris, des gens comme ça qui sont dans, on va dire, top 15 mondial. Lui, c'est après.
Oui, il est au blanc.
Donc, mais qu'est-ce qui l'a amené, l'entraîneur?
Oui, sans doute.
Ouais. Mais tu sais, il a eu Arconada.
Oui.
Et tu sais lequel? Parce que là, t'as cité une date que tu n'as pas vue. La finale de 1974.
Oui.
La première finale, Bayern de Munich, à Bruxelles, contre Atlético Madrid. Schwarzenbeck égalise à la 90e minute de jeu. C'était le père de Reina.
Oui.
De Reina, le gardien.
Pepe Reina.
Il a plongé et le ballon, il a glissé sous le bras. À la 90e. Comment? Il n'y avait pas de temps supplémentaire. À 48 heures plus tard, ils ont joué. Bayern de Munich, il a gagné 4-0.
Mais sa chance, c'est que le football était moins mondialisé.
Ce que j'espère pour Karius, c'est qu'il s'en remette. Parce qu'on a senti une douleur, une tristesse infinie. J'ai trouvé d'ailleurs, bizarrement, que ses équipiers ne sont pas tellement venus vers lui.
On
l'a vu,
il est
parti tout seul. Et c'est plutôt les joueurs du Real, d'ailleurs, qui sont venus un peu le consoler. Après, il est parti vers son public. Et vous avez des erreurs comme ça en mondiovision. Mais c'est un truc tellement dur à assumer, tellement
dur. On se souvient de Joe Hart, hein, en 2010 à la Coupe du Monde.
L'Angleterre était très loyal. Oui. Hein. Très loyal, franchement, avec du respect.
Ouais. Carlos, qu'est-ce que dit un entraîneur à un joueur comme ça après un match?
Personne n'est plus malheureux au monde que le gardien.
Mais pour qu'il revienne,
il sait, qu'il a fait une bêtise.
Bah oui, ça tout le monde le sait.
Il n'y a pas quelqu'un plus malheureux que lui.
En tout cas, Jürgen Klopp, lui, eh bien, malheureusement, pour Liverpool, a confirmé un peu le statut. On en parlait avant. un peu chat noir de ses équipes. Il a perdu sa troisième finale avec une troisième équipe. Alors avant, c'était avec le Borussia Dortmund en Ligue des Champions, avec déjà Liverpool en Ligue Europa. Et maintenant, alors les supporters l'attendaient à l'aéroport et ils ont quand même essayé de le dérider quand il est arrivé à l'aube dimanche matin.
We all feel really, really bad, and the way home will not be the best.
Madrid and all the fucking luck. We swear we keep on being cool. We'll bring it back to Liverpool. We saw the European Cup. Madrid and all.
Voilà, une petite chanson pour se remettre dans l'humeur.
Mais moi je sais pas, Annie, si c'est un théoricien du foot, mais moi j'adore ce que fait Klopp. Pour moi, les vainqueurs
n'ont pas. Je partage votre avis, Dominique, parce que on sait jamais ce qui va se passer dans les matchs avec Klopp.
La contribution de Klopp au football, pour moi, elle est considérable à Dortmund comme à Liverpool. Les deux clubs où je suis, à Mayence, j'ai moins suivi.
Ah bon?
Et je trouve que voilà, c'est un entraîneur fantastique. Ses équipes me régalent, je ne m'ennuie jamais. C'est imprévisible, effectivement.
C'est spectaculaire.
C'est spectaculaire. Elle est en finale pour moi de la Ligue des Champions avec Dortmund et y aller avec Liverpool. Je considère que ce sont deux exploits parce que c'est la Ligue des Champions n'est pas formatée pour ces clubs qui sont des semi-gros. Les gros, c'est le PSG, c'est City, c'est le Bayern, c'est le Real Madrid, c'est le Barcelone en termes de finances, de puissance économique. Dortmund et Liverpool, ils ont pas l'argent, mais ils en ont un tout petit peu moins. Donc pour moi, les vainqueurs n'ont pas toujours raison et il est un vainqueur de morale de cette année.
Parce que là je trouve quand même que c'est un peu abusé qu'on explique que l'entraîneur qui est deux fois ou trois fois en finale,
oui.
Alors on peut pas parler contre Séville, pourquoi pas, mais par exemple en Ligue des Champions, il est deux fois avec un club qui est largement inférieur. Déjà, plutôt que de dire ah ben il a perdu les finales, c'est de dire il est arrivé
exactement,
en finale. C'est déjà exceptionnel d'arriver en finale.
C'est ce qu'on entendait sur le côté non favori avant la finale, et c'était quand même triste. Carlos, c'est un Dominique parle d'un entraîneur qui nous plaît, mais c'est vrai qu'il est généreux dans le spectacle.
Il a un style de jeu.
Voilà.
Lui a un style offensif.
On fonce un peu tête baissée avec lui.
Lui il prend le ballon et c'est lui qui prend le ballon et il doit penser à attaquer.
Ouais.
C'est là la réalité. Ouais. C'est pas un jeu mi-figue mi-grasin.
C'est pas
lui,
imprudent.
Lui sait très bien. Lui sait très bien ce qu'il veut. Il a démontré déjà à Borussia Dortmund. Et il a démontré encore à Liverpool.
C'est imprudent dans le football d'aujourd'hui, un peu trop réaliste, qui veut du résultat?
Non, je ne crois pas. Je pense que l'entraîneur, il doit montrer son savoir-faire.
C'est de plus en plus. On voit les Sarri, les Guardiola, les
Benzema. Je préfère perdre en essayant de frapper.
Et pour l'instant, il est en finale de Ligue des Champions. Il s'est qualifié pour la Ligue des Champions l'année prochaine par le championnat.
Oui, en terminant quatrième avec Liverpool.
Son football n'est pas un handicap pour l'instant.
Bon, alors nous, on fait partie du clan de ceux qui admirent Klopp.
Absolument.
Et qui attendent une belle saison l'année prochaine avec, espérons-le, avec tous ces attaquants là pour faire encore rêver les supporters du fameux You'll Never Walk Alone. Il n'est jamais seul, Jürgen Klopp. Passons à un autre sujet. On va rendre hommage à un grand joueur que fut Roger Piantoni.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
Il jouait au football du temps où les retransmissions étaient encore en noir et blanc, mais il a ensuite commenté des matchs en couleur. Roger Piantoni, le buteur au pied gauche magique, est mort donc au cours du week-end à l'âge de 86 ans.
La Coupe du Monde 58, ouais. Vous marquez combien de buts?
Moi j'en marque 3. Hein.
3, dont celui de la demi-finale, le dernier de la demi-finale contre le Brésil. Voilà.
5-1, Jonquet est revenu sur le terrain mais joue les figurants. Quant à Roger Piantoni, son gauche n'est pas complètement émoussé.
Quel bagage de valeur avait cette équipe-là?
Une qualité de joueur tournée vers l'offensive. Hein.
Vous étiez des amis, frères sur le terrain, ça se voyait.
Vous savez, on était une bande d'amis, pourquoi? Parce qu'on gagnait, hein. Dans toutes les équipes, c'est comme ça. Dès que vous gagnez, vous êtes amis. Hein.
Oui.
Dès que vous perdez, c'est toujours de la faute du copain.
Oui.
Je m'en aperçois encore maintenant. Hein. Mmh. Ça a été de tout temps, ça. Hein.
Salut aux sportifs de France, dit une pancarte noyée au milieu des 80 000 spectateurs massés au stade Dynamo de Moscou. URSS 2, France 1. Est-ce la victoire pour les soviétiques? Non, car l'équipe française livre alors un combat héroïque qui lui vaut le respect et l'admiration de la foule moscovite. Et leur extraordinaire Furia va trouver sa récompense. Foix passe à Pinverne, qui lance Piantoni, but. Match nul, 2-2.
Roger Piantoni qui ne profitera donc pas de la prochaine Coupe du Monde, mais lui qui a participé, on l'entendait, à l'épopée de 1958 avec, comme on disait à l'époque, les tricolores et aux côtés d'autres attaquants fameux comme Raymond Coppa qui est disparu il y a 14 mois, il était âgé de 85 ans. Et puis il y a toujours Juste Fontaine qui a 84 ans. Ils vivent très vieux ces attaquants. Quand il évoque ce souvenir donc du souvenir de France-Brésil, 24 juin 1958 en Suède, et l'émission, David Finzel a trouvé ça, c'était My Lorraine Télé, donc il vivait à Nancy, hein, c'est pour ça il était lorrain. Vous l'avez connu, Carlos Bianchi, parlez-nous de Roger Piantoni.
Et c'était quelqu'un qui ne se prenait pas au sérieux, c'était quelqu'un, parce que les anciens gloires du Stade de Reims, ils venaient toujours nous voir jouer, disons.
Il a joué 73, au Stade de Reims 74, et à Nancy. Hein.
73, 74, 75. Et c'était quelqu'un de très simple qui venait, il passait comme un monsieur tout le monde. C'était pas, il disait ça va, et il se mettait à parler.
Parler football, bien
mais,
sûr.
Mais, oui, on n'allait pas parler de la mode.
mais, c'est un bon look.
Vous parliez entre mais, buteurs.
Oui, mais c'était quelqu'un, c'était quelqu'un de très simple. C'est ça que c'est bien, parce que ce sont des gens qui ont vécu quelque chose. Parce que lui, attention, que le Stade de Reims, il avait arrivé 3 fois en champion, en finale de la Coupe d'Europe, il avait gagné le championnat de France.
Il avait joué en 58 la Coupe d'Europe, la finale contre Copa, qui était au Real Madrid, effectivement.
Et 59 aussi. Mm-hmm. 57, 58, 59. Hein?
57, il était pas à Reims.
Je crois que c'est 58.
Ah, il arrive
en 58. Ouais.
Mais c'était quelqu'un de très simple. C'est ce qu'on aimait, comme Justo. Justo, c'était. Mais vous savez que les grands joueurs, ils n'ont pas besoin de démontrer qui sont.
Ouais.
Avec la simplicité, vous l'aimez.
Et alors, il y a une petite chose qu'on a découverte, c'est que en 1962, il aurait pu. Si son président à l'époque était Henri Germain, hein, propriétaire Monsieur d'une Henry. Maison de champagne, l'avait laissé partir, il aurait pu aller jouer en Argentine.
Oui, à River. Oui, oui, je me rappelle, j'avais 13 ans à cette époque, et ça parlait de qu'un joueur français,
aurait pu venir.
Il aurait bien pu. Mais nous, on ne savait pas comment il jouait, rien du tout, parce qu'à cette époque-là, la télévision.
Ouais.
Mais il n'était pas très loin.
Vous avez gardé un souvenir de ce personnage. On se souvient plutôt comme commentateur, hein, quand il commentait les Coupes du Monde avec à la télévision. Absolument. Un des premiers consultants finalement.
Ouais, absolument. Et puis l'image qu'il a laissée, parce que c'est vrai qu'on a vu peu de matchs de cette époque-là. Mais bon, quand on s'intéresse au football, on s'intéresse aussi au football d'avant. Heureusement d'ailleurs, c'est la moindre des choses.
Il y a des belles archives.
Notre métier. Mmh. Et c'était un joueur phénoménal, hein, un vrai buteur. D'ailleurs, il avait débuté très jeune et il a été meilleur buteur
ans.
Du championnat de France. Il avait 19 ans peut-être. Il a mis quasiment 30 buts. 28.
Exactement, avec la S Nancy Lorraine.
Avec la S Nancy Lorraine, parce qu'il est resté longtemps, et c'était l'ami d'Aldo Platini. Aldo Platini qui est décédé l'année dernière, il allait toujours voir les matchs avec lui d'ailleurs. Et ben, il en restait un troisième, il y avait Colo. Il reste plus Colo, mettant pour aller voir les matchs de Nancy, mais effectivement, Aldo Platini est décédé, et puis Roger Piantoni aussi.
Dominique, peut-on faire un petit parallèle avec Mbappé?
Dans le style de jeu?
Oui, entre les deux, qui ont commencé à 18 ans, très jeunes, dans un championnat.
Dans le style, non, je crois pas, après, la précocité, éventuellement, parce que.
Il était pas très rapide, et lui, il avait un sacré pied gauche, et une touche de balle. Disons qu'il était plus près des Puskas. C'était des mecs, des 20 mètres, des 25 mètres, il était frappé, il te la mettait dans la lucarne, à côté du poteau. Mais non, Mbappé, il va dominer l'or.
Il y a peu de joueurs qu'on peut comparer.
Tu sais pas où il va y aller.
Il y a peu de joueurs qu'on peut comparer à Mbappé, hein, parce que
Mbappé, il est
telle qualité physique.
Mais c'était un sacré joueur. En tout cas, moi, quand je parle avec les anciens, je parlais à cette époque-là, tout le monde, il parlait de Copa, parce que Copa, c'était Copa. Mais Roger, c'était Roger, attention.
Ouais.
Et on
au stade
Justo,
de Reims.
Hein, Justo, il est à Toulouse.
Exactement.
Il n'est pas forcément dans une forme olympique. Voilà, parce que comme vous l'avez dit, Annie, il a 84 ans. Donc on lui fait un gros bisou.
Ouais, on pense à lui aussi. C'est la fin de ce Radio Foot. Merci beaucoup, messieurs. Merci aussi à David Finzel qui m'a aidé à préparer l'émission. Guillaume Ploquin qui était à la réalisation. Et évidemment, on vous dit à demain. Vous pouvez nous réécouter aussi sur le site RFI Pure Radio.
Priorité santé.